Jules le Maître, Lilith. Jésus étant né à Bethléem au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus l'adorer. Le roi Hérode, l'ayant appris, fut troublé. Et ayant assemblé les sacrificateurs et les scribes, il s'informa de où devait naître le Christ. Et ils lui dirent, « C'est à Bethléem !» Alors Hérode, ayant appelé secrètement les mages, sans qui du temps ils avaient vu l'étoile, les envoyant à Bethléem, il leur dit, « Allez, informez-vous exactement de ce petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi l'adorer. » Mais, après que les mages, conduits par l'étoile, eurent trouvé et adoré l'enfant, avertis par un songe de ne pas retourner vers Hérode, ils s'en allèrent dans leur pays par d'autres chemins. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, fut fort en colère. La princesse Lilith, fille du roi Hérode, couchée sur un lit de pourpre, songeait, tandis que la négresse Noun balançait sur son front un éventail de plumes et que son chat Astratos était à ses pieds, la princesse Lilith avait 15 ans. Ses yeux étaient profonds comme une eau de verre de citerne et sa bouche pareille à une fleur d'hibiscus. Elle songeait à sa mère, la reine Marianne, morte quand Lily était toute petite encore. Elle ne savait pas que son père l'avait tuée par jalousie, mais elle savait qu'il conservait au fond d'une chambre secrète, le corps de la reine embaumé dans du miel et des aromates, et qu'il le buvait encore. Elle songeait à son père, le roi Hérode, si sombre et toujours malade. Quelquefois, il s'enfermait dans sa chambre, et là, on entendait pousser des cris. C'est qu'il croyait revoir ce qu'il avait fait mourir. Son beau-frère, Costobar, sa femme, Marianne, ses fils, Aristobule et Alexandre, frères de Lilith, sa belle-mère, Alexandra, sa fille, Antipater, son fils, Antipater, le docteur de la loi, Babeloulal, et beaucoup d'autres. Et bien que Lilith ignorât ces choses, son père lui inspirait une grande terreur. Elle songeait au Messie attendu des Juifs. Dont lui avait parlé souvent sa nourrice, Ecdare, morte à présent. Et quoique le Messie dût être roi à la place d'Hérode, elle se disait qu'elle voudrait pourtant bien le voir, car l'attrait lointain de cet événement merveilleux la détournait de chercher comment il pourrait s'accomplir. Elle songeait enfin au petit Osaël, le fils de sa sœur de lait, Zébouda, qui demeurait à Bethléem. Osaël était un petit garçon d'un an, qui riait et commençait à parler. Lilith l'aimait tendrement, et presque tous les jours, faisant atteler les mules au chariot de cèdre, elle allait avec la négresse Toun visiter le petit Israël. Lily songeait à tout cela, et qu'elle était bien seule au monde, et que, sans le petit Israël, elle se serait beaucoup ennuyée. Alors Lily alla dans le jardin afin de s'y promener sous les grands sycomores. Elle y rencontra le vieux Zabulon, qui avait été autrefois capitaine des gardes du roi. Hérode avait remplacé sa garde juive par des soldats romains. Mais, ayant confiance en Zébulon, dans le vieux Zébulon, il avait chargé de surveiller la partie du palais où habitait la princesse Élite. Le vieux Zébulon, infirme depuis quelques années, se chauffait au soleil sur un banc de pierre. Et l'âge l'avait à la fois incliné, que sa large barbe se repliait sur ses genoux. Lilith lui dit « Tu es triste, vieux Zébulon. J'ai su par un centurion que le roi avait donné l'ordre de tuer demain, dès l'aube, tous les enfants de Bethléem au-dessous de 2 ans. Et pourquoi ? Ben, les mages ont annoncé que le Messie était né, mais on ne sait à qui le quoi le reconnaître. Et les mages ne sont pas revenus dire s'ils l'avaient trouvé. Et en tuant tous les petits enfants de Bethléem, le roi est sûr que le Messie ne lui échappera pas. C'est vrai, dit-il. Oh, cela est très bien imaginé. Puis après un moment de réflexion, est-ce qu'on peut le voir ? Qui ? Le Messie. Pour le voir, il faudrait savoir où il est. Où l'on savait où il est, on n'aurait pas besoin de tuer tous les petits enfants de la même bourgade. Oui, c'est juste, dit Lilith. Elle ajouta à voix basse, et, comme ayant peur de ses paroles, mon père est bien méchant. Puis, tout à coup, et le petit Azarel ? Oh, le petit Azarel, dit Zébulon, mourra comme les autres, car les soldats fouilleront dans toutes les maisons. Mais pourtant, je suis bien sûr, moi, que le petit Azarel n'est pas le Messie. Comment voulez-vous qu'il soit le Messie ? C'est le fils de ma sœur de lait. Ben, demandez sa grâce à votre père, dit Zébulon. Je n'ose pas, dit Lilith. Et elle reprit. Je vais aller avec Noun chercher moi-même le petit Azarel. Je le cacherai dans ma chambre. Sans sûreté, car le roi n'y vient presque jamais. Lilith fit atteler les mules au chariot de cèdre, fut à Bethléem avec Noun, entra chez sa sœur et dit à Zébouda, « Voilà trop longtemps que je n'ai pas vu Azarel. Je voudrais l'emporter dans mon palais et le garder un jour et une nuit. L'enfant est sevré et n'a plus besoin de tes soins. Je lui donnerai une robe d'hyacinthe et un collier de perles. » Et elle ne dit point à Zébouda ce qu'elle avait appris de Zébulon, tant elle avait peur du roi. Mais elle remarqua que le visage de Zébouda rayonnait d'une joie inaccoutumée. « Mais pourquoi es-tu si joyeuse ?» Zébouda hésita un moment et dit « Je suis joyeuse, princesse Lilith, parce que vous aimez mon fils. Et ton mari, où donc est-il ? » Zébouda hésita encore et répondit, « Oh, il est allé rassembler son troupeau dans la montagne. » Noun cacha sous ses voiles le petit Azarel, et Lilith et la bonne négresse rentrèrent au palais à l'heure où le soleil se couchait derrière Jérusalem. Quand Lilith fut dans sa chambre, elle prit Azarel sur ses genoux, et l'enfant riait et voulait saisir les longs pendants d'oreilles de la petite princesse. Mais Noun, qui dans la salle voisine préparait une bouillie de maïs pour l'enfant, accourut et dit « Le roi ! Voici le roi !» Lilith n'eut que le temps de cacher Azarel au fond d'une large corbeille et de le recouvrir d'un morceau de soie et de larges éclatantes. Le roi Hérode entra, pas pesant, le dos voûté, les yeux sanglants sa face terreuse, secouant sur lui des colliers et des plaques d'or, et son manteau était agité d'un tremblement dont la barbe frisée frissonnait toute. Il dit à Lilith : « D'où viens-tu ? » Elle répondit : « De Jéricho. » Et la leva sur le roi, ses yeux tranquilles comme l'eau d'une citerne. « Oh ! Comme elle lui ressemble !» murmura Hérod. À ce moment, un petit cri sortit de la corbeille. « Oh, veux-tu bien te taire ?» dit Lilith au chat Astroth, qui dormait sur le tapis. Puis elle dit au roi : « Mon père, vous semblez avoir du chagrin. Voulez-vous que je vous chante une chanson ?» Et prenant sa cithare, elle chanta une chanson sur les roses. Et le roi murmura : « Oh, cette voix ! Oh, cette voix !» Et il s'enfuit comme pris d'épouvante, parce que les regards et la chanson de Lilith lui avaient rappelé la voix et les yeux de la reine Marianne. Un peu après, Lilith alla dans le jardin et vit le vieux Zébulon qui pleurait. « Pourquoi pleures-tu, vieux Zébulon ?»« Vous le savez, princesse Ilia, parce que je pleure parce que le roi veut tuer ce petit enfant qui est le Messie. » « Mais, dit Lilith, s'il était vraiment le Messie, les hommes n'auraient pas le pouvoir de le tuer. Dieu veut qu'on l'aide, répondit Zébulon. Princesse, vous qui êtes bonne et compatissante, vous devrez avertir le père et la mère de ce petit enfant. Mais où les trouverai-je ? M'interroger les gens de Bethléem. Oui, mais dois-je sauver celui qui chassera ma race de ce palais, celui par qui je serai peut-être un jour une pauvre prisonnière ou une mendiante des rues. Ces temps sont éloignés, dit Zébulon, et le Messie n'est encore qu'un tout petit enfant, plus faible que le petit Azaël. Puis le Messie aura assez de puissance pour être roi sans faire de mal à personne. Et si un jour vous aviez une fille, princesse Lilith, le Messie, quand il sera grand, pourrait la prendre en mariage. Mais est-il le Messie ? Demanda Lilith. Oui, dit Zébulon, puisqu'il est né à Bethléem, et le temps marqué par ses prophètes, et que les astres, et que les mages ont vu son étoile. Ah, il doit être beau, quoique petit, n'est-ce pas, Zébulon ? Mais il est écrit qu'il sera le plus beau entre les enfants des hommes. J'irai le voir, dit.
La nuit venue, Lilith s'enveloppa de voiles noires, et les bracelets et les cercles d'or de ses bras et de ses chevilles, et les colliers de son cou et les pierres précieuses dont elle était toute couverte, luisaient à travers ses voiles aussi doucement que les étoiles dans le ciel. Et ainsi Lilith ressemblait à la nuit dont elle portait le nom, car Lilith en langue hébraïque signifie « la nuit ». Elle sortit secrètement du palais avec la négresse Noun, et elle songeait en chemin : « Je ne voudrais pas que le Messie enleva la couronne à mon père, car il me serait dur de ne plus habiter un beau palais et de ne plus avoir de beaux tapis, de belles robes, des joyaux et des parfums. Mais je ne veux pas non plus que l'on fasse mourir ce petit enfant nouveau-né. Alors je dirai à mon père que j'ai découvert sa retraite et, en récompense de ce service, je le prierai d'épargner cet enfant et de le garder dans son palais. Ainsi, il ne pourra nous nuire. Mais s'il est le Messie, il nous assistera de sa puissance. » Lilith trouva Zébouda en prière avec son mari. « Maintenant, et tous deux paraissaient remplis d'une grande joie. Alors Lilith s'avisa d'une ruse. « Ozel va bien, dit-elle, et je vous le rendrai demain. Mais puisque vous savez où est le Messie, conduisez-moi auprès de lui. Je suis venu pour l'adorer. » Métunel était un homme simple et peu enclin à voir le mal. Il répondit, « Oh, je vous conduirai, princesse Lilith. » Quand ils arrivèrent au lieu où était l'enfant, Lilith fut fort étonnée, car elle s'était attendue à quelque chose d'extraordinaire et de magnifique, sans savoir quoi, mais elle ne vit qu'une lutte adossée au rocher, et sous le chaume, un âne, un bœuf, un homme qui avait l'air d'être un artisan, une femme du peuple, belle sans doute, mais pâle et frêle, et pauvrement vêtue, et dans la mangeoire, sur de la paille, un petit enfant qui lui semblait d'abord, ressemblait d'abord à beaucoup d'autres. Mais, s'étant approchée, elle vit ses yeux, et dans ses yeux, un regard qui n'était point d'un enfant, une douceur intime et plus qu'illuminée. Et elle s'aperçut que les tables n'étaient éclairées que par la lumière qui émanait de lui. Elle dit à la jeune mère, « Comment vous appelez-vous, Myriam, et votre petit garçon, Jésus ? Il a l'air bien sage. Non, il pleure quelquefois, mais il ne crie jamais. Voulez-vous me permettre de l'embrasser ?»« Oui, madame, » dit Myriam. Lilith s'inclina, baisa l'enfant sur le front, et Myriam fut un peu fâchée de voir qu'elle ne s'ajouillait point. « Ainsi, dit Lilith, ce petit enfant est le Messie. »« Oui, vous l'avez dit, madame, et il sera roi des Juifs. »« Oui, c'est pour cela que Dieu l'a envoyé. » »« Mais alors il fera la guerre, il tuera beaucoup d'hommes et détrônera le roi Hérode ou son successeur. » « Non, dit Myriam, car ce royaume n'est pas de ce monde. Il n'aura pas de garde ni de soldats. Il n'aura pas de palais ni de trésors. Il n'enlèvera pas d'impôts. Il vivra comme le plus pauvre des pêcheurs du lac de Génézareth. Il sera le serviteur des humbles et des petits. Il guérira les malades. Il consolera les affligés. Il enseignera la vérité et la justice. Et c'est sur les cœurs et non sur les corps qu'il régnera. Il souffrira pour nous apprendre le prix de la souffrance. Il sera le roi des pleurs, de la charité et du pardon. Il sera le roi de l'amour, car il aimera les hommes et à ceux qui sont tourmentés d'un désir d'aimer auquel la terre ne suffit point. Il dira comment leur pauvre cœur trouvera son contentement et sa joie. Il aura d'inépuisables miséricordes pour tous ceux qui, même coupables, auront conservé ce don d'aimer et cette vertu de sentir frères des autres hommes, de ne pas se préférer à ceux. Et sans doute, il aura un trône. « Ah, vous voyez bien, » dit Lilith, résistante encore. « Mais, » reprit Myriam, « ce trône sera une croix. C'est sur une croix qu'il mourra pour expier les péchés des hommes et afin que Dieu son Père le prenne en pitié. » Lilith écoutait avec étonnement. Lentement, elle tourna la tête vers la crèche et vit que l'enfant la regardait, et sous la caresse de ses yeux profonds, vaincus, elle glissa sur ses genoux et murmura, « On ne m'avait jamais dit ces choses. » Et elle adora. Et depuis longtemps, Noun, la bonne négresse, était agenouillé et pleurait. « Je sais, dit Lilith en se relevant, que le roi Hérode cherche l'enfant pour le faire mourir. Prenez l'âne, je le paierai à son maître, et fuyez par les chemins étroits, serpentant autour des collines rondes, Jésus et sa mère, et Joseph, et Lilith, et la négresse, et une l'âne arrivèrent dans la plaine. « C'est ici, dit la princesse, qu'il faut que je vous quitte. Je suis la princesse Lilith, fille du roi Hérode. Souvenez-vous de moi. » Et pendant que Myriam montait sur l'âne que conduisait Joseph, et tenant Jésus dans ses bras, s'éloignait par le chemin de droite, Lilith suivait des yeux, dans la nuit, l'auréole qui entourait le front divin du petit enfant. Et juste au moment où, derrière le bois de Sycomore, le pâle lumière mystérieuse disparaissait, voici que, par le chemin de gauche, apparaît, avec un bruit de chevaux, des froissements de fer et des lueurs rapides de casques sous la lune, l'escadron des soldats romains marchant vers Bethléem. Et chacun sait que la princesse Lilith fut une de ces saintes femmes qui suivirent Jésus le jour de ce sacrifice et que le petit Israël fut un des premiers disciples du Christ Sauveur.